vous écoutez RFI, il est 7h à Paris, 8h à Gomain. Et bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Andréane Mellard.
À la une de votre journal La Nuit, qui a été calme à Goma dans l'est de la RDC.
La journée d'hier, elle a été marquée par de nouveaux échanges de tirs, affrontements, toujours entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. 10 jours après l'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hamas, des milliers de Palestiniens continuent de rentrer chez eux dans le nord de Gaza. Une zone complètement détruite, 42 millions de tonnes de gravats à déblayer, sans parler des restes d'explosifs. En Ukraine, les associations des à la fin de l'aide étrangère américaine. Et puis après Notre-Dame, Emmanuel Macron s'attaque en France à un nouveau chantier culturel, cette fois pour le musée du Louvre.
Une accalmie relative à Goma au cours de la nuit.
Les affrontements entre l'armée congolaise et le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda se sont apaisés depuis hier en milieu de journée. Ces violences ces derniers jours ont fait plus de 500 000 déplacés selon le ministère congolais des Affaires étrangères. 100 morts et plus d'un millier de blessés selon l'AFP qui a compilé des bilans hospitaliers. Lucie Mouillot, vous êtes à Gisenyi, la ville rwandaise frontalière. Ici, ce matin, Lucie, la situation reste calme?
En effet, au niveau de la Grande Barrière, pas encore de mouvement aujourd'hui. Des bureaux d'enregistrement ont été préparés pour accueillir les réfugiés et plusieurs bus sont arrivés il y a quelques minutes. Mais le principal poste frontière entre Goma et Gisenyi n'a pas ouvert à l'heure habituelle de 6h de matin. Côté rwandais, la nuit a été très calme, pas de détonation entendue dans la ville ou au niveau de la frontière. Après 2 jours de tension, où écoles et nombreux commerces sont restés portes closes, aujourd'hui la vie reprend dans la ville et les élèves doivent retrouver ce matin le chemin des salles de classe. Près de 700 habitants de Gisenyi qui vivent proche de la frontière sont toujours dans un camp de déplacés internes. Après les affrontements du début de semaine qui ont fait 9 morts au Rwanda, selon le dernier bilan des autorités qui se préparent toujours à des arrivées nombreuses de réfugiés après une première vague hier matin. Plus de 1200 personnes venant de Goma avaient franchi la frontière fuyant les échanges de tirs et de mortiers dans la ville.
Lucie Mouillot en direct de la ville frontalière de Gisenyi. Aujourd'hui, une rencontre entre les présidents congolais et rwandais est prévue au Kenya, mais rien ne dit qu'ils se rendront sur place alors que l'ONU continue de partager son inquiétude. Les États-Unis appellent au cessez-le-feu dans l'est de la RDC. La Chine dit espérer que le Rwanda entendra les appels à ne plus soutenir le M23.
Et on revient sur la situation en RDC à Goma. Après ce journal avec notre invité international Arnaud Pontus, s'interroge François Morillon, chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge en RDC.
En Afrique de l'Ouest, ces manifestations de joie au Niger, au Mali et au Burkina Faso, c'est aujourd'hui que les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, quittent officiellement la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais de nombreuses questions restent à régler, notamment sur les visas, les passeports ou encore les programmes financés par la CEDEAO.
De files ininterrompues de déplacés qui portent des sacs, des bagages à bout de bras à Gaza, le chemin du retour vers le nord de l'enclave.
Plus de 376 000 Palestiniens sont rentrés dans le nord de Gaza depuis le début de la trêve, selon l'ONU. Parmi eux, des personnes vulnérables, des femmes enceintes ou qui allaitent, des enfants qui ont besoin d'une aide d'urgence et qui retournent donc dans une zone détruite par 15 mois de bombardement où rien ne les attend, sinon une aide bien précaire, Pierre-Olivier.
Ils sont des centaines de milliers à regagner le nord de l'enclave palestinienne et leur domicile sur place. Pourtant, c'est un paysage de désolation. Clémence Laguarda est responsable des opérations à Gaza pour l'ONG Oxfam.
On parle de 42 millions de tonnes de gravats qui doivent être enlevés. Pour ça, il faut un équipement spécialisé. Il y a aussi un risque très important de retrouver des munitions qui n'ont pas explosé, des restes d'explosifs.
Au milieu des ruines, la gestion de l'eau potable est aussi particulièrement délicate.
Pour l'instant, il y a quelques points d'eau qui opèrent et les ONG essayent de mettre en place des camions citernes et des points de distribution un peu partout pour que les gens aient accès à de l'eau potable. Mais clairement, le réseau à l'heure actuelle ne fonctionne pas et a été largement détruit.
Malgré tout, l'aide humanitaire parvient à être acheminée. Clémence Laguarda.
Depuis le cessez-le-feu, le nombre de camions qui entrent dans le nord a augmenté. On est à environ 300 par jour. Par contre, contrairement au sud, l'aide qui rentre dans le nord est vraiment de l'aide d'urgence. Mais pour l'instant, tout ce qui est matériel spécialisé et qui justement peut permettre la réhabilitation des réseaux d'eau, etc., ne peut pas encore rentrer.
Car l'autre défi de taille est le retour de l'électricité, alors que près de 80% des installations ont été détruites.
Gaza, le Proche-Orient qui devra peut-être se passer de l'aide américaine. La nouvelle administration Trump, dès son entrée en fonction, a décidé du gel de son aide étrangère, une pause de 90 jours, mais des dérogations, des exemptions sont prévues, par exemple pour l'aide alimentaire d'urgence ou encore pour l'assistance militaire à Israël et à l'Égypte, et d'autres sont d'ores et déjà prévues.
On ne sait pas encore si l'Ukraine pourra bénéficier de ces exemptions.
Mais elle subit déjà ce gel de l'aide américaine. Hier, le président Volodymyr Zelensky a affirmé que de nombreux projets humanitaires étaient désormais à l'arrêt. Il assure qu'il trouvera des solutions. En attendant, des dizaines d'associations et d'ONG dépendent de cet argent. Elles font aujourd'hui le bilan, Emmanuel Chaz.
Toute la journée, le téléphone a sonné chez Veteran Hub, une ONG ukrainienne qui soutient la réinsertion des anciens soldats dans la société. Ivona Kostina, sa directrice, explique qu'aucun appel n'a pu être traité.
Nous ne pouvions pas continuer et avons dû arrêter toutes nos activités, celles financées par les États-Unis, sans des services aux vétérans. Nous avons dû immédiatement stopper notre travail avec nos clients et avec notre centre de Vinnytsia qui a ouvert en 2020. Il a survécu à la pandémie de Covid, à l'invasion à grande échelle, puis à la reconstruction post-invasion. Et maintenant, avec la suspension immédiate du financement, il a dû fermer.
Alors que les organisations affectées dressent tout un état des lieux alarmant et cherchent des alternatives de financement, le gouvernement ukrainien, qui avait espéré une exemption de cette suspension de l'aide américaine, se veut rassurant via le président Volodymyr Zelensky.
Ce financement ne passe pas par le gouvernement ukrainien, mais directement par nos communautés, via diverses organisations et de nombreux projets. Nous allons déterminer lesquelles sont critiques et nécessitent des solutions immédiates, car nous pouvons assurer une partie de ce financement grâce aux finances publiques.
Le président ukrainien a également annoncé être en pourparlers avec ses alliés européens et américains sur la question des subventions humanitaires. Beaucoup d'ONG ukrainiennes tirent cependant la sonnette d'alarme. Elles auront besoin d'une solution bien avant la fin des 3 mois de suspension, sans quoi beaucoup d'entre elles devront tout simplement fermer leurs portes de façon définitive. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et ce matin, la Russie dit avoir abattu une centaine de drones ukrainiens. Une raffinerie est en feu dans une région du centre-ouest.
En Serbie, malgré la démission du Premier ministre, les manifestations devraient se poursuivre.
3 mois de manifestations dans le pays suite à l'effondrement de la gare de Novi Sad qui avait fait 15 morts. Nouveau gouvernement, nouvelles élections. Les Serbes sont divisés quant au meilleur scénario à suivre. À Belgrade, Laurent Rouy.
La démission surprise du Premier ministre serbe Milos Vucevic montre que la protestation étudiante contre la corruption peut porter ses fruits. Pourtant, cet étudiant ne veut pas interrompre les blocages universitaires car les 4 revendications du mouvement ne sont pas exaucées.
La démission du Premier ministre me semble être une tentative de faire baisser la tension alors qu'il ravive cette tension chaque jour. Les étudiants ne cesseront pas leur mouvement tant que toutes les revendications ne seront pas acceptées.
L'opposition veut saisir l'opportunité de la démission du Premier ministre pour former un nouveau parlement, comme l'explique Miroslav Aleksic, un leader de l'opposition.
La seule solution est de nommer un gouvernement de transition dont le premier objectif sera de remplir toutes les revendications des étudiants et ensuite d'organiser des élections libres et transparentes.
Mais pour le président Aleksandar Vučić, pas question d'accéder aux revendications de l'opposition. La constitution lui donne le choix et il compte bien garder cet avantage.
J'ai vu qu'il existe des génies qui affirment que les assemblées étudiantes doivent désigner le futur gouvernement. Mais il faut maintenant décider ou de former un nouveau gouvernement ou d'organiser de nouvelles élections. Personnellement, je suis ouvert aux 2 options.
Le bras de fer entre le pouvoir et les protestataires continue donc sans que l'on puisse encore voir la fin de la crise qui paralyse la Serbie. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
RFI 7h09 à Paris avec son air serein et son regard énigmatique. La Joconde pourrait bientôt déménager.
Alors pas trop loin non plus, elle resterait au Louvre, Andréane, mais elle pourrait avoir sa propre salle pour être admirée par encore plus de monde. C'est l'une des idées avancées par le président français Emmanuel Macron qui a présenté hier son projet Nouvelle Renaissance du Louvre, un chantier colossal pour adapter le musée au nombre de visiteurs. Après la Cité de la Francophonie à Villers-Cotterêts, la reconstruction de Notre-Dame, Emmanuel Macron veut donc ajouter la transformation du Louvre dans la liste de ses grandes œuvres culturelles, Valérie Gasse.
Au chapitre de son legs au patrimoine français, Emmanuel Macron inscrit un autre chantier intitulé Nouvelle Renaissance du du Louvre. Renaissance, un nom évocateur puisque c'est celui qu'il a choisi pour baptiser son parti et résumer son ambition.
Ce projet doit être pour l'art, l'histoire de l'art et sa transmission, une nouvelle étape aussi dans la vie de la nation.
Une étape qui doit permettre une énorme transformation du musée pour un budget de 7 à 800 millions d'euros, en grande partie financé par la billetterie et le mécénat. Un détail qui a son importance au moment où le gouvernement cherche des économies. Emmanuel Macron a d'ailleurs anticipé les accusations de déconnexion.
Beaucoup de gens pourraient se dire, c'est totalement intempestif de venir parler d'un grand projet culturel, alors que le monde semble partir dans tous les sens et que manifestement les discussions budgétaires se poursuivent.
Le président ne gouverne plus mais inclut dans son domaine réservé le rayonnement culturel et le temps long. Le projet doit en effet aboutir après la fin de son mandat en 2031, mais permet à Emmanuel Macron d'expliquer le sens qu'il lui donne maintenant.
Dans un moment où il semble que l'immédiateté et les discours de force ont un pouvoir hypnotique, parler de temps long et de l'art est, je crois, aussi l'un des messages que la France a à livrer au monde. Et c'est un combat politique.
De la politique, Emmanuel Macron veut encore en faire.
Valérie Gasse du service politique de RFI.
On termine ce journal en musique, Marion, avec de l'éthio-jazz.
L'éthio-jazz, du jazz éthiopien, avec le retour du groupe Arat Kilo, qui s'apprête à sortir un nouvel album 5 ans après le dernier. Et on a déjà un aperçu de ce nouveau disque avec un premier single qui vient de sortir. Il s'appelle Bendia. Et c'est un titre de la playlist RFI de février, Lucie Bouteloup.
Bendia, on est à l'aise avec ce premier single. Arat Kilo nous invite ici à la détente. Le groupe, fondé en 2008 par 3 Français amoureux de jazz éthiopien des années 50, nous propose ici un titre à la rythmique diaboliquement efficace, mené par des claviers hypnotiques et des cuivres afro-jazz. À la voix, un duo d'exception composé de la diva malienne Mamani Keita et du slammer américain Mike Ladd. I sleep 8 despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace seeps out my pores. I put in work before the storm. Un titre résolument optimiste à l'image de Danama, ce 5e album dont il est extrait, Danama comme digne de confiance en Bambara. Un album entre tradition et modernité où se mêle la tetzeta, cette fameuse gamme pentatonique mineure typique du jazz d'Éthiopie, avec du hip-hop acoustique, des rythmes drum and bass, du swing ou encore des sonorités inspirées de la Nouvelle-Orléans. Une véritable célébration du métissage des cultures.
Bendia, un titre que vous retrouvez dans le nouvel album d'Arat Kilo.
Merci Marion Cazanov, à tout à l'heure. Bientôt 7h13 à Paris, prochain journal Afrique. Dans 20 minutes, la RDC à la une. Situation particulièrement inquiétante à Goma, dans l'Est. Depuis plusieurs jours, les organisations humanitaires notamment alertent sur les conséquences des violences sur les populations civiles. Rendez-vous dans 5 minutes avec notre grand invité international, François Morayon, chef de délégation du comité international de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo. Il répond aux questions d'Arnaud Pontus à 7h20. D'abord, c'est l'heure de l'infosport avec Florence Valmet. Du football à la une, Florence, et cette grande soirée de Ligue des Champions qui nous attend. 18 matchs au programme de cette 8e et dernière journée de la phase de Ligue de la compétition.
Et on suivra de près Stuttgart, PSG. Les deux équipes qui comptent 10 points dans ce classement unique ne sont pas encore définitivement qualifiées. Et si le PSG 22e aborde ce rendez-vous avec plus de confiance, une semaine après sa victoire contre Manchester City, le défenseur Lucas Hernandez se méfie, lui qui connaît bien Stuttgart et la Bundesliga, pour avoir joué 4 saisons au Bayern Munich.
J'ai déjà joué ici avec mon ancien club. C'est vrai que voilà, on sait qu'ici en Allemagne, il y a toujours des bonnes ambiances dans les stades. Les supporters sont toujours là, sont toujours présents, et encore plus dans ce type de match. C'est vrai que voilà, on va s'attendre à un match pas facile, bien sûr, avec beaucoup d'intensité. La plupart des équipes d'Allemagne mettent beaucoup d'intensité dans tous les matchs. Du coup, il va falloir être prêt dès le début parce que je pense que ça va être un match très serré dès le premier sifflet de l'arbitre.
Propos recueillis par Cédric De Oliveira, le PSG devra au moins faire match nul pour se qualifier pour les barrages.
Autre match à enjeu, Florence, celui entre Manchester City et le club Bruges.
Les hommes de Pep Guardiola sont pour l'instant virtuellement éliminés et doivent battre le club Bruges pour faire partie des 24 équipes à poursuivre leur route en Ligue des Champions. les Citizens dos au mur, mais plutôt confiants à l'image de leur défenseur croate, Joško Vardiol.
Aujourd'hui, c'est évidemment une finale pour nous. On veut se qualifier pour la prochaine phase. Notre confiance est assez bonne, surtout après notre victoire de samedi contre Chelsea. On joue à la maison, on va recevoir beaucoup de soutien de la part de nos supporters, donc je pense qu'on sera prêt. Bruges est une bonne équipe, la preuve, elle joue cette Ligue des Champions. Ça ne va pas être facile. Je l'ai affronté il y a 3 ans avec Leipzig et à cette époque, elle était excellente. Ce sera un bon match. Bruges a besoin d'un point et nous d'une victoire pour se qualifier. Et on va tout faire pour la remporter.
Manchester City Club Bruges ainsi que tous les autres matchs de cette 8e journée, notamment Brest-Real Madrid, Inter Milan-Monaco, Lille-Feyenoord ou encore FC Barcelone-Atalanta. Coup d'envoi à 20h TU, ce sera à suivre également dans une émission spéciale dès 19h40 TU sur RFI avec le match Stuttgart-PSG en fil rouge.
Et puis en handball, l'équipe de France masculine s'est fait peur mais se qualifie pour les demi-finales des championnats du monde en battant une magnifique équipe d'Égypte sur le score de 34 à 33.
Au coude à coude avec les Pharaons qui comptaient pourtant jusqu'à 5 points de retard dans la rencontre, c'est un but de Luka Karabatic à 2 dixièmes de la fin de la rencontre qui qualifie les Bleus dans le dernier carré de la compétition. Un scénario fou que tente d'analyser le capitaine des Bleus, Ludovic Fabregas.
C'est quelque chose d'énorme déjà. On a une première mi-temps où on est assez dominateur, la deuxième où on est devant, mais c'est quand même difficile. Malgré tout, l'équipe tient bon, elle s'accroche, elle donne tout ce qu'elle a. Et sur cette dernière action, Loulou arrive à trouver la mire et c'est fantastique parce que c'est à l'image aussi de ce qu'est Loulou, à savoir quelqu'un de dévoué pour l'équipe et le fait qu'il marque ce but-là. Qui nous qualifie pour les demi, c'est quelque chose de grand. L'équipe n'a pas lâché, on a utilisé le ballon comme on pouvait au mieux. Et ce soir, ça nous sourit, et tant mieux, il faut qu'on en profite. On a vécu quelque chose de dur il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est nous qui marquons au buzzer.
Et Loulou, c'est Luka Karabatic. En demi-finale, la France affrontera la Croatie ce jeudi.
Merci Florence Valmé, à tout à l'heure. À 7h17 à Paris, votre rendez-vous aujourd'hui, l'économie. Bonjour Stéphane Geneste.
Bonjour Andréane.
On s'intéresse ce matin avec vous au secteur du luxe, alors que vient de s'achever la Fashion Week de Paris, grand rendez-vous de la mode chaque année. Et le groupe LVMH, groupe Louis Vuitton, fleuron tricolore du secteur, a publié ses résultats de 2024 hier justement, et ils sont mauvais. Les bénéfices du géant du luxe ont nettement chuté, moins 17%. Illustration, Stéphane, bien concrète d'un secteur en pleine métamorphose.
Oui, Andréane, la tendance n'est plus au vert, mais plutôt au rouge. Ces dernières années, l'an passé, la consommation de produits de luxe a clairement ralenti à tel point qu'elle s'est contractée de 2%. D'après le cabinet Bain & Company, entre 2022 et 2024, ce sont 50 millions de consommateurs habitués aux articles de luxe qui ont renoncé à ce type d'achat. Baisse de la demande qui se ressent sur le marché, on le constate avec les résultats de LVMH, mais il y a tout de même du positif. Les ventes pour l'année dernière se sont stabilisé à environ 363 milliards de dollars.
Et comment est-ce qu'on explique cette situation pour un secteur qu'on disait pourtant en parfaite santé?
Alors plusieurs raisons. D'abord, on le disait, la clientèle n'a pas répondu autant présente qu'avant, notamment la clientèle chinoise, puisque ce marché représentait l'an passé 22% des ventes de produits de luxe. Le pays n'est donc plus le moteur de la croissance du secteur, et ça se ressent. On notera aussi que le marché américain est suspendu aux décisions sur les droits de douane envisagés par Donald Trump, qui de jour en jour deviennent de plus en plus concrets. Et puis les clients, ils consomment différemment. Beaucoup vont préférer une croisière, un séjour dans un hôtel de luxe ou vivre une expérience plutôt qu'acheter un sac en cuir, une montre ou un tailleur haute couture. Ça, c'est l'analyse via la demande, mais c'est aussi dans l'offre que résident les difficultés du secteur.
C'est-à-dire, c'est aussi de la faute des grands groupes.
Exactement, Andréane. Ils ont continué à miser sur l'élasticité des prix. Parce que ces groupes vendent de la rareté, certains se sont permis d'augmenter leurs prix, peut-être un peu trop. Plus 54% entre 2019 et 2024, d'après HSBC, ce qui coûtait, imaginons, 10 000 euros en 2019, en coûte aujourd'hui 15 400. Une hyperinflation qui est mal passée auprès des consommateurs. Le secteur a atteint la limite d'un effet économique qui s'appelle l'effet Veblen. Concrètement, plus un produit est cher, plus il est demandé. Maintenant, il semblerait que ce ne soit plus le cas.
Et donc, quelles sont les pistes pour que le secteur retrouve des couleurs?
Deux solutions finalement. Soit se recentrer sur l'ultra-luxe avec certains produits iconiques qui font office de référence et continuer de s'adresser à une clientèle très fortunée. soit parler à une classe moyenne supérieure qui, à travers le monde, prend de plus en plus de place. D'après le cabinet Bain, ce sont plus de 300 millions de nouveaux clients potentiels de cette classe qui vont émerger d'ici à 10 ans. Cela dans différentes régions du globe, comme le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est ou encore l'Afrique. Le tout, évidemment, en respectant des critères environnementaux et sociaux, car cet aspect devient un déclencheur d'achat très important.
Et vous nous dites, Stéphane, que le luxe peut retrouver une croissance dynamique.
Oui, même si pour le moment, elle sera lente, hein, elle restera positive. Le cabinet McKinsey table sur une croissance annuelle estimée entre 1 et 3% jusqu'en 2027. Le temps, Andréane, pour les grands groupes d'ajuster leur stratégie et de retrouver des couleurs.
Stéphane Genest. Tout de suite, notre grand invité international pour répondre aux questions d'Arnaud Pontus, François Morillon, chef de délégation du CICR en RDC.
Bonjour François Morillon.
Bonjour Arnaud Pontus.
Merci d'être avec nous, merci à vous d'être en direct de Kinshasa. La guerre fait rage dans l'est de la République démocratique du Congo. Que vous disent de la situation ce matin vos équipes présentes à Goma?
Alors écoutez, je leur ai parlé tout à l'heure, elles me disent que la situation est revenue à un relatif calme. On entend quelques tirs, mais rien de comparable avec ce qu'on a connu les jours derniers. Aujourd'hui, notre préoccupation majeure, ce sont les pillages qui ont débuté déjà hier et qui pourraient se poursuivre. Mais cela n'est pas à l'image de ce qu'on a vécu cette dernière semaine et pourrait évoluer rapidement.
Ouais. Pour vous François Morillon, est-ce que vous êtes en mesure de nous livrer un bilan chiffré du nombre de blessés? Est-ce que vous avez une idée précise du nombre de blessés?
Oui, à l'heure actuelle, depuis le début du mois, nous avons traité près de 1000 blessés par arme, à la fois par balle et également par engin explosif. Ce qui est particulièrement alarmant, ce sont les derniers chiffres. Par exemple, hier et avant-hier, nous avons reçu 148 blessés, dont 136 civils, et ce matin, encore 110 blessés. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave et comme on peut le voir, coûte énormément aux civils dans une zone qui est très urbanisée, très densément peuplée et donc ce type d'armement utilisé en ville représente un danger manifeste pour les populations. Nous avons d'ailleurs rappelé à l'ensemble des parties de faire preuve de retenue et de tout faire pour protéger les populations civiles.
Oui, est-ce que les équipes du CICR ont déjà été confrontées ou témoins d'un tel niveau de violence dans la région?
Alors, pour vous dire la vérité, peut-être les derniers événements, il faut remonter à 96, à 96. Même la prise de Goma en 2012 n'avait pas atteint ce niveau de violence. Donc non, si on regarde pour ce simple mois, on aura eu dans un seul hôpital, nous en soutenons plusieurs, autant de blessés que pour toute l'année 2023. Donc on a atteint un niveau d'intensité tout à fait extraordinaire.
Avec des blessés, vous le disiez, qui sont en très grande majorité des civils, des enfants notamment, hein.
Alors oui, cette tendance s'est inversée avec à force que les combats se déroulaient dans la ville. Si vous voulez, au départ, dans les affrontements qui étaient plutôt dans la région de Sake, on voyait à peu près un ratio de 10 à 20% de blessés civils. Et cette situation s'est totalement renversée à l'approche des combats en ville où nous sommes arrivés, comme je le disais avant-hier, avec 90% de blessés civils, oui. Ce qui est dramatique.
On évoque ce grand nombre de blessés à Goma. Est-ce que vous êtes en mesure de leur venir en aide, de les soigner?
Alors oui, nous faisons tout notre possible. Nous avons d'ailleurs élargi notre programme de prise en charge. Nous avions déjà 3 équipes de chirurgie de guerre à un second hôpital, l'hôpital provincial de Goma, où actuellement quelques 60 blessés sont pris en charge. Nous avons une 4e équipe de chirurgien de guerre en route. Mais ce qui nous fait énormément de soucis, c'est que nos entrepôts ont été pillés hier et que dès aujourd'hui, nous allons faire face à des carences, ce qui va nous mettre dans une situation très sensible. D'abord, un, parce que des gens vont perdre leur vie en raison de ces pillages. Oui. Et deux, il faut comprendre qu'il y a énormément de tensions au niveau de l'hôpital. À l'heure où je vous parle, on a plus près de 400 personnes dans l'hôpital. Il y a des personnes qui arrivent avec des armes, on essaie de les maintenir à l'extérieur, mais il y a une tension extrême qui met en danger, bien sûr, nos équipes. équipes. On rappelle d'ailleurs encore une fois aux parties présentes de rappeler à leurs troupes le respect de la mission médicale. J'aimerais rajouter à ce titre qu'il y a eu plusieurs autres incidents qui ont touché du personnel médical, des ambulances, et cela est également quelque chose d'inadmissible. Et nous avons encore une fois rappelé aux parties leur responsabilité dans ce cadre.
Oui, oui, des ambulances qui ont été prises pour cible, des blessés parmi le personnel médical. Et donc, c'est pillage dont vous nous parlez, François Morillon. Le CICR a aussi alerté hier sur la situation au sein du laboratoire de l'Institut National de Recherche Biomédicale à Goma. Dans ce labo, pour faire court, il y a des échantillons du virus Ebola. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ?
Alors, cette mise en garde, nous avons décidé de la prendre sciemment et de manière publique afin de responsabiliser les acteurs qui se battent actuellement sur le terrain. Parce que si l'intégrité physique de ce lieu devait être endommagée ou si la chaîne de froid devait être interrompue, cela représenterait un danger potentiel qui irait bien au-delà des frontières de la RDC. D'ailleurs, ce matin, nous allons tenter de nous y rendre afin de s'assurer que le périmètre est sécurisé, qu'il n'est pas exposé au pillage. Ceci est une de nos principales inquiétudes, car les personnes susceptibles de rentrer dans ce site n'ont aucune connaissance du danger que cela peut représenter. Et également mettre un emblème de la Croix-Rouge sur le toit pour qu'il soit bien visible du ciel, afin qu'il ne puisse pas être confondu avec une cible militaire.
Oui, qu'il ne soit pas pris pour cible. Le problème actuellement dans ce labo, c'est l'électricité, le maintien au frigo, si je puis dire, des échantillons, des souches bactériologiques, c'est ça, hein ?
Exactement. À notre connaissance, elle a été maintenue jusqu'ici, mais nous allons probablement devoir reprendre l'approvisionnement en essence qui semble arriver à manquer.
Oui, pour être tout à fait clair, parce que c'est un sujet qui évidemment inquiète et frappe les esprits, s'il y a coupure d'électricité, est-ce que ça représente un risque ou est-ce que les souches bactériologiques qui sont là vont quelque sorte mourir et ne représenter aucun risque de propagation ?
Alors, selon les experts que nous avons contactés, tant que les frigos ne sont pas ouverts, le risque est contenu.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Merci François Morillon pour cette précision. Il faut aussi parler évidemment de la situation des déplacés, puisque les combats dans l'est de la RDC ont fait plus de 500 000 déplacés depuis le début du mois de janvier. C'est les chiffres à la fois de l'ONU, de la ministre des Affaires étrangères. Et ça aggrave évidemment encore la situation humanitaire.
Oui, alors, et particulièrement à Goma. Il faut vous dire que la ville de Goma, il n'y a pas de chiffres récents. C'est une ville qui doit à peu près abriter 2 millions de personnes. À cela s'est ajouté près d'un million de déplacés. À l'heure où je vous parle, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité dans la ville de Goma, les réseaux ayant été endommagés par les combats, et ça représente évidemment une situation extrêmement préoccupante pour ces populations, mais également pour des raisons de santé publique évidentes. Donc là-dessus, le CICR essaie de voir ce qu'il peut faire pour accompagner les acteurs techniques afin de mener les réparations. Nous sommes en discussion à l'heure où je vous parle et nous espérons pouvoir agir rapidement, mais les dégâts qui ont été constatés sont énormes et vont prendre du temps à être réparés.
Oui. D'un mot pour finir, François Morillon, en tant que chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge en RDC, est-ce que vous lancez un appel ce matin ?
Oui, je lance un appel à toutes les parties au conflit de respecter la mission médicale, de protéger les populations civiles, surtout dans les zones urbaines où elles sont fort exposées, de respecter également les acteurs humanitaires, de leur offrir l'accès nécessaire pour qu'ils puissent maintenir une activité. À l'heure où je vous parle, le CICR est probablement un des seuls acteurs qui est capable, grâce à son emblème protecteur, de se déplacer en ville de Goma. Et ce sont donc ces quelques éléments. Merci.
Merci beaucoup à vous d'avoir été en direct de Kinshasa, François Morillon.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
reconnaître les symptômes de la goutte, cette maladie chronique qui provoque des crises douloureuses.
Demain,
journée mondiale des maladies tropicales négligées.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
La foire internationale d'art contemporain africain, 154 Contemporary African Art Fair, revient à Marrakech du 30 janvier au 2 février. À découvrir les créations de plus de 90 artistes issus du continent africain et de ses diasporas. Plus d'informations sur 1-54.com. En partenariat avec RFI. Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Thomas de Saint-Léger.
Dernière journée de la phase de groupe, dernier billet pour la suite du voyage. 18 matchs en simultané, 2 en intégralité. Stuttgart-PSG, un nul suffit à Paris, mais attention à ne pas se perdre en calcul. Et Brest-Real Madrid, affiche de gala à Guingamp. La soirée spéciale Ligue des Champions, c'est